autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour un voyage philosophique parmi les petites phrases de la science. Certains scientifiques sont connus par leurs citations. Il y a le célèbre « Eureka » d'Archimède ou encore le « Et pourtant elle tourne » de Galilée. Et aussi « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » du chimiste Lavoisier. Comment comprendre ces citations? Certaines d'entre elles ont été vraiment prononcées, d'autres relèvent de la légende. Mais dans tous les cas, elles représentent un chemin d'accès original vers la science. De véritables leçons de philosophie qu'on peut même parfois extrapoler dans la vie quotidienne. Comme la phrase de Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Nous embarquons aujourd'hui pour une promenade linguistique et parfois poétique dans l'histoire des découvertes de l'Antiquité à la physique contemporaine en compagnie du philosophe des sciences Alexis Rosenbaum. Alexis Rosenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie des sciences dans des écoles d'ingénieurs et vous venez de publier un ouvrage intitulé Eureka, avec pour sous-titre Petite histoire des sciences en 40 citations. C'est aux éditions des Impromptus Le Pommier. Donc alors ces phrases, il y en a que l'on connaît, hein, donc Eureka, la plus courte d'Archimède, mais 40 autres. Alors donc pourquoi ce livre? Comment vous est venue cette idée?
Bien écoutez, en tant qu'enseignant, j'avais constaté que les dissertations et les exposés des élèves ou de mes étudiants comportaient parfois la mention de citations célèbres de l'histoire des sciences, mais de façon approximative ou erronée. Et je me suis donc dit qu'il fallait prendre les plus célèbres d'entre elles, ou les plus intéressantes, et les présenter de façon aussi claire et accessible que possible. Voilà.
Donc, vous avez aussi écrit d'autres livres de vulgarisation, notamment sur les dominants et les dominés chez les animaux, aux éditions Odile Jacob. Et vous avez aussi publié un ouvrage intitulé « Citations philosophiques expliquées ». Donc, cet exercice de style, hein, vous y êtes habitué, c'est-à-dire partir de citations pour tirer le fil et parler de philosophie et de science aussi.
Oui, en l'occurrence, ce qui est frappant dans la plupart de ces grandes citations de l'histoire des sciences, c'est qu'elles comportent une vraie dimension philosophique. Et je dois dire que c'est ce qui m'a sans doute le plus intéressé, même si le pari global de l'ouvrage, c'est quand même de montrer que ces citations, comme vous l'avez dit, sont un moyen simple et agréable d'aborder cette extraordinaire histoire des sciences qui a façonné nos sociétés directement ou indirectement.
Oui, vous dites dans votre introduction que les citations sont un chemin d'accès inhabituel vers la science, mais en fait, hein, on s'aperçoit à la lecture de votre livre que le sens qu'on prête parfois à certaines citations est faux, hein, on se trompe dans l'interprétation. Parfois même, il y a des phrases qui n'ont jamais été prononcées, hein, donc c'est ce qu'on va voir au cours de cette émission. Mais commençons par une phrase très connue, et la plus courte, hein, puisqu'elle tient en un mot, Eureka. Alors, racontez-nous un petit peu la petite histoire de cette phrase, ce mot.
Eureka, c'est l'histoire d'une fraude, en fait. Une fraude très difficile à mettre au jour. Nous sommes au 3e siècle avant notre ère, dans la cité de Syracuse, et le roi a commandé une couronne, une fine couronne en or pur. L'orfèvre a exécuté la commande, mais un délateur a affirmé que c'est une escroquerie, et qu'en fait, l'orfèvre aurait empoché une partie de l'or et aurait livré, en réalité, une couronne faite d'un alliage d'or et d'argent. Bon, et évidemment, le roi de Syracuse ne compte pas laisser passer un tel délit, mais comment vérifier l'escroquerie? Comment être sûr que cette couronne est composée d'or et d'argent? Et il va missionner l'un des plus grands savants de l'Antiquité, qui lui aussi est de Syracuse, à savoir Archimède, pour essayer de vérifier l'escroquerie. Donc Archimède réfléchit, et puis un jour, au milieu de son bain, il s'aperçoit que le volume d'eau qui passe par-dessus bord quand il rentre dans le bain, quand il s'immerge, est équivalent, et proportionnel au volume d'eau donc le volume d'eau qui passe par-dessus bord est proportionnel à celui de son propre corps lorsqu'il s'immerge dans l'eau. Et ça lui donne une idée, ça lui donne une sorte d'intuition. Et il pense savoir comment vérifier, comment calculer les différences de volume entre une couronne en or pur et une couronne faite d'alliage. Et donc, d'après le récit, il est pris par cette intuition, enthousiasmé par l'idée de pouvoir trouver la solution, eh bien, il se serait levé tout nu de la baignoire, il aurait sauté hors de la baignoire et il aurait couru dans les rues de Syracuse en criant, en interpellant les passants au son de cette exclamation « Eureka, Eureka », c'est-à-dire littéralement « J'ai trouvé, j'ai trouvé ».
Voilà, j'ai trouvé donc Archimède courant nu dans les rues de Syracuse, mais ça n'a jamais été réellement prouvé. C'est ce que vous rappelez dans votre livre. Justement, alors, restons dans l'Antiquité grecque avec cette autre citation d'Archimède. Écoutons un extrait du dessin animé Eureka.
Même les hommes des cavernes connaissaient le levier. Sans parler de notre cher Archimède de la Grèce antique, qui en fait fut le premier à énoncer le principe du levier. Plus le bras du levier sur lequel la force est appliquée est long, moins la force requise sera grande. En fait, un jour d'exubérance, il a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. »
Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ou la terre. Cette autre citation dont vous racontez l'histoire dans votre livre. Alors Archimède, c'était quand même quelqu'un de très important puisque avec tous ses systèmes, c'est un ingénieur. Hein. Il a fabriqué des catapultes, des moyens de lever les bateaux. Et ce principe du levier, c'est ce que tous les enfants connaissent hein, sur la balançoire à bascule. Ça a quand même changé radicalement le monde de cette époque.
Oui, alors, c'est vrai que quand on regarde les traités antiques ou médiévaux, Archimède est plus connu comme inventeur d'armes militaires que comme un génie mathématique. Et donc, c'est à cela, à cette puissance technologique auquel les commentateurs font référence.
Mais là, justement, vous vous rappelez qu'il a construit des systèmes, par exemple, des catapultes, ainsi qu'une main de fer effrayante, un grappin géant qui pouvait être lancé à partir d'une grue pour défendre la cité de Syracuse. Accuse, hein, là encore, contre la flotte romaine qui l'assiégeait. C'était un ingénieur militaire, en vérité.
Oui.
Ce qu'on ne sait pas trop, en fait. En général, il est ramené simplement à la poussée d'Archimède.
Oui, c'est vrai. Alors, surtout si on pense à la première des citations qu'on a évoquées tout à l'heure, on garde en tête l'image d'Épinal, hein, du savant hirsute, hein, du professeur Nimbus ou du professeur Tournesol. Voilà, c'est à ça qu'on pense. Alors que c'est avant tout, hein, c'est vrai, enfin, c'est aussi un stratège militaire et le constructeur d'armes dévastatrices. Et c'est vrai que pendant la Deuxième Guerre punique, hein, entre les Carthaginois et les Romains, à laquelle Syracuse prend part, il contribue à la défense de la ville en élaborant, grâce à ses connaissances physiques et technologiques, en élaborant des systèmes de défense très, très meurtriers en fait, hein. Notamment, comme vous l'avez rappelé, cette fameuse main géante qui était capable de soulever, à l'aide d'un système de levier, qui était capable de soulever les bateaux romains qui finissaient brisés ou renversés. Vous pouvez imaginer l'effroi des marins romains, des soldats romains, quand ils voyaient arriver ces espèces de grues géantes au-dessus d'eux.
Et Alexis Rosenbaum, dans votre livre, dont je rappelle le titre, Eureka, petite histoire des sciences en 40 citations, donc c'est un véritable voyage dans le temps également. Alors nous allons faire aussi un voyage dans le temps avec ce grand bond. Nous voici maintenant au XVIIe siècle, hein, précisément en 1663, avec une autre phrase très connue également, et pourtant elle tourne.
Nos grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galileo Galilei, citoyen de Florence, devant la commission spéciale et suivant les décisions du tribunal, présidé par son éminence le très respecté cardinal Francesco Barberini, nous disons, statuons et déclarons que toi, Galilée, Tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le soleil serait le centre du monde et ne se mouvrait pas de l'Orient à l'Occident, et que la Terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion qu'on ne pouvait ni soutenir ni défendre comme probable depuis qu'elle avait été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture.
C'est un extrait du film Galilée ou l'amour de Dieu de Jean-Daniel Verheyghe. Donc là, nous sommes en 1633 et non 1663, comme je l'ai dit par erreur avant cet extrait. Donc Alexis Rosenbaum, alors le procès, le fameux procès de Galilée, cette fameuse phrase, et pourtant elle tourne. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Eh bien, il est peu vraisemblable que Galilée l'ait prononcé, hein, puisque les quelques oreilles qui auraient pu l'entendre à ce moment-là lui auraient difficilement pardonné.
Oui, ça aurait été vraiment très dangereux de sa part. Il venait d'avoir la vie sauve et de faire un pied de nez justement à ceux qui lui avaient par clémence accordé la vie sauve aurait été très 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 dangereux pour lui. Non, il n'avait pas cette audace.
Oui, ça l'aurait fait passer pour un véritable relapse aux yeux de l'autorité ecclésiastique, donc il aurait pu être condamné au bûcher, effectivement. Cela dit, elle est quand même conforme à l'esprit, à la démarche de Galilée, qui pense que ce n'est pas à l'autorité ecclésiastique de juger ce qui est vrai ou faux, hein, de calculer le mouvement des étoiles ou quoi que ce soit de ce genre-là. Pour lui, l'autorité ecclésiastique peut nous enseigner des vérités de foi, mais certainement pas statuer sur le fonctionnement du cosmos d'un point de vue physique.
Et il faut rappeler également que quelques années plus tôt, hein, Giordano Bruno avait été brûlé vif, hein, donc pour avoir dit justement que la Terre n'était pas le centre de l'univers.
Oui, alors dans le cas de Bruno, c'est un peu différent, parce que Bruno n'est pas seulement poursuivi pour ses opinions cosmologiques. À vrai dire, ça ressemble un peu à un procès en sorcellerie du côté de Bruno. C'est quelqu'un qui a proféré des propos blasphématoires, qui a nié la transsubstantiation, qui a nié la virginité de Marie, qui a dit que le Christ a été une sorte de magicien particulièrement doué. Donc il y avait vraiment d'autres chefs d'accusation. Et je pense qu'on peut dire que Giordano Bruno n'avait fait que défendre l'héliocentrisme, il n'aurait probablement pas fini sur le bûcher.
Nous allons revenir à cette époque, mais auparavant, une petite pause musicale avec Derek Pop, excusez-moi, qui interprète Galileo.
Vous écoutez RFI autour de la question. Thank you.
C'était Derek Pop Galileo. Alexis Rosenbaum, nous parlons des petites phrases de la science avec votre livre, Un petit histoire des sciences en 40 citations aux éditions Impromptu Le Pommier. Donc restons encore à Galilée, hein, puisque ça vaut le coup, et aussi avec Dieu. Alors Galilée a aussi dit et écrit même cette autre phrase, le livre immense de l'univers est écrit en langage mathématique. Alors ça c'est quand même une révolution.
Oui, ça c'est vraiment une révolution scientifique. Galilée a compris qu'on peut soumettre le réel à un traitement mathématique. Nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, exposés au monde à travers les qualités sensibles des objets, hein, la saveur, la couleur, l'odeur, la chaleur. Mais pour avoir une chance de connaître profondément le monde, il faut passer par-delà ces qualités sensibles et accéder à des lois, à des équations, en fait, qui nous font comprendre beaucoup plus profondément, en fait, le fonctionnement des choses. Et pour avoir une chance d'accéder à des équations, en fait, il faut trouver des quantités. Alors, comment on fait pour trouver des quantités? Comment on fait pour les prélever sur le monde? Eh bien, justement, il faut prendre des mesures qui permettent la quantification. Et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut comprendre que la langue du monde, celle des, fondamentalement des équations, c'est les mathématiques. Et que pour comprendre profondément le monde, il faut accepter de passer par cet étrange système symbolique des mathématiques. Et jusqu'à aujourd'hui, la physique est restée profondément inspirée par cette démarche-là.
Oui, et justement, pour comprendre à quel point c'était une révolution, il faut savoir quand même qu'à cette époque, hein, au XVIIe siècle, on considérait que l'univers était écrit dans la langue de l'Évangile. Les textes religieux décrivaient le monde. Et non, comme l'a dit Galilée, les maths et la physique. Et vous parlez aussi de cette autre citation. Alors, je n'avais pas besoin de cette hypothèse, en parlant justement de Dieu. Alors, cette citation, on la doit à Pierre-Simon de Laplace. Qui était cet homme ?
Alors là, effectivement, on a avancé d'un bon siècle. Laplace, un grand mathématicien, un astronome, un physicien de la fin du 18e, sans doute le plus influent de la période pré-napoléonienne, disons. C'est l'un des grands fondateurs de l'astronomie mathématique, et son grand traité de mécanique céleste a développé, complété et précisé la mécanique classique de Newton.
Oui, alors donc, il était en face du général Bonaparte, hein, qui fait venir Laplace, et après avoir lu l'un de ses ouvrages, hein, qui s'appelait « L'exposition du monde », Bonaparte lui dit « Alors voilà, vous faites tout le système du monde, vous donnez les lois de la création, mais dans votre livre, vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu. » Et Laplace lui répond « Ben voilà, je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là, encore une fois, hein, on est un siècle après Galilée, mais finalement... Dieu est encore très présent pour le pouvoir en place et les scientifiques sont finalement en rébellion contre ce pouvoir. Là aussi, Laplace comme Galilée, même si Laplace ne risquait pas sa vie à cette époque-là.
Oui, alors il y a quelque chose de plus provocateur, je pense, dans le propos de Laplace. Il est difficile de savoir exactement s'il a vraiment proféré ces mots et le sens qu'il leur prêtait, mais en tout cas, c'est compatible avec sa vision déterministe du monde. On a un ouvrage de lui qui s'appelle « L'essai sur les probabilités », où il imagine une intelligence qui pourrait connaître à un certain moment toutes les lois du monde et la situation des êtres qui le composent. Et si cette intelligence existait, dit Laplace, alors elle serait capable d'embrasser sous son regard les mouvements des plus grands corps célestes et des plus petites molécules, de sorte que le passé comme l'avenir seraient tout entier présents à ses yeux. C'est l'idée que, au fond, cette physique moderne commence à penser que la connaissance des conditions initiales et des lois permet de savoir avec certitude et exactitude comment les phénomènes vont se dérouler. Et à partir du moment où on conçoit l'univers comme un grand enchaînement de causes et d'effets, eh bien, l'utilité, si je peux dire, de Dieu commence à devenir évanescente.
Oui, et c'est là que la physique rejoint la philosophie, hein, puisque les scientifiques, là, aussi bien Galilée que Laplace, disent, ben voilà, nous, on n'a plus besoin de Dieu, puisqu'on a des équations qui nous permettent, si on connaît finalement toutes les conditions du système, eh bien, d'être comme Dieu, de prévoir le futur d'une certaine manière, c'est ce que dit Laplace.
Alors, à ceci près que Laplace ne croit pas que cette performance époustouflante de prévision du cosmos soit donnée à l'homme. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a écrit un ouvrage sur les probabilités. C'est parce qu'il pense que la science des probabilités est plus adaptée à la connaissance humaine, sachant que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons essayer de nous rapprocher de cette intelligence, entre guillemets, mais dont nous resterons, comme il le dit, toujours infiniment éloignés, faute de pouvoir disposer de la connaissance parfaite des conditions initiales et de peut-être de toutes les lois du monde. Donc, c'est pas, à mon sens, pour Laplace, c'est pas une performance humaine, c'est plutôt une façon soutenir que rien dans le monde n'échappe aux lois de la nature.
Alors restons toujours quelques instants encore avec Dieu, mais faisons un bond dans le temps. Nous sommes au début du XXe siècle, en 1926 précisément. Albert Einstein a dit « Je suis convaincu que Dieu ne joue pas au dé ». Alors on prête beaucoup de phrases à Einstein. Écoutons ce qu'en disait notre confrère de France Inter, Mathieu Vidard.
Parmi ces nombreuses citations, certaines sont devenues très célèbres, comme celle sur les abeilles.
Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre.
Voilà, une telle prédiction de la part du plus grand physicien du XXe siècle a de quoi marquer les esprits. Sauf qu'en 2007, un site spécialisé dans le dépistage de rumeurs a enquêté sur le cas Einstein et les abeilles. Et la conclusion est sans appel, il n'a jamais prononcé cette phrase. Et même sa citation la plus connue, même Dieu ne joue pas au dé, est inexacte puisque Einstein, pour personnifier la nature, n'utilise pas le mot Dieu, mais Terre Alte, qui en allemand signifie l'ancien. Ce foisonnement de citations réelles ou tronquées reflète le statut exceptionnel d'Einstein, dont la renommée 60 ans après sa mort reste intacte.
Alexis Rosenbaum, dans votre livre sur l'histoire des sciences en 40 citations, vous ne parlez pas des abeilles d'Einstein, mais par contre de sa phrase sur Dieu. Alors, il ne cite pas Dieu explicitement, mais il dit, en fait, il parle du vieux. Hein, c'est comme ça qu'il l'appelait, effectivement.
Oui, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. C'est le vieux avec un grand V, c'est Dieu, c'est-à-dire c'est-à-dire le maître de l'univers au sens classique du mot. Et c'est vrai que Einstein n'était pas un croyant au sens classique du terme.
Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire cette phrase, hein, quand il dit « je suis convaincu que le vieux ou Dieu, peu importe, enfin, ne joue pas au dé », on peut la comprendre de différentes façons. Certains ont pu comprendre que justement Einstein était croyant, alors qu'en fait, il ne l'était pas. Hein. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est autre chose. Il parlait de la mécanique quantique, en fait. Du hasard, du rôle du hasard.
Oui, il n'a jamais vraiment accepté au cours de sa carrière que le hasard soit incrusté, si on peut dire, dans la mécanique quantique. Il avait l'habitude, de par sa formation, d'utiliser les probabilités et les statistiques comme quelque chose qui reflétait notre méconnaissance partielle du système. Hein. Bon, comme dans le cas des dés, d'ailleurs. Hein. Si nous utilisons des probabilités à propos du lancer de dés, c'est parce que nous ne pouvons pas calculer précisément la façon dont un dé va retomber, faute de pouvoir connaître exactement le mouvement du doigt et du dé dans les airs. Donc la présence des probabilités, dans ce cas-là, ne signale pas un hasard intrinsèque de la nature, mais plutôt notre méconnaissance de cette nature. Alors que dans la physique quantique, apparaît la possibilité d'une sorte, alors on va le dire de façon un peu approximative, hein, d'une sorte de hasard intrinsèque ou d'indétermination intrinsèque, et c'est ce que, semble-t-il, Einstein n'a jamais tout à fait accepté jusqu'à la fin de sa vie.
Et pourtant, il était aussi l'un des pionniers de la physique quantique. C'est lui quand même qui a contribué à ce développement, donc c'est un peu paradoxal.
Ah oui, bien sûr, oui. Parmi ces grands articles de 1905, il y en a un sur l'effet photoélectrique, par exemple, et il fait partie de ceux qui, en 1916 aussi, ont introduit les probabilités en mécanique quantique, à propos des probabilités d'émission ou d'absorption des photons. Donc, il fait partie officiellement des pionniers de la mécanique quantique, et pourtant, il ne se ralliera pas tout à fait à l'interprétation orthodoxe, hein, celle de certains pères tutélaires comme Niels Bohr, comme Heisenberg, comme Pauli, qui vont donner à la mécanique quantique quantique son statut officiel, en fait.
Changeons de discipline, puisque c'est aussi cela hein, qui est amusant dans votre livre, hein, c'est qu'on passe d'une discipline à l'autre. Pour la chimie, avec cette phrase hein, que tout le monde connaît, qu'on a tous entendue, hein, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Une phrase due au chimiste Antoine Laurent de Lavoisier au XVIIIe siècle.
Il prit une cornue dont il recourba la tige afin de l'introduire sous une cloche à mercure. Il pesa, avant le début de l'expérience, 140 grammes de mercure qu'il introduisit dans la cornue. Et il pesa également la masse d'air comprise sous la cloche et dans tout le volume de la cornue, 990 grammes. Puis, il installa tout le dispositif sur un fourneau. À la fin, avec la même balance, il pesa tous les résidus de l'opération. Et il trouva deux chiffres identiques, les constitués avaient un poids égal aux constituants, et il put établir le principe fondamental de la chimie, rien ne se perd et rien ne se crée, et faire intervenir les mathématiques, le signe égalité et les équations dans une science où trônait jusqu'à ce jour l'arbitraire.
Alexis Rosenbaum, ce qu'on apprend dans votre livre, hein, c'est que finalement ce principe de conservation était connu avant Lavoisier, finalement. Alors Lavoisier a quand même apporté quelque chose.
Oui, alors il était certainement connu au temps de Lavoisier. Et Lavoisier, en fait, contrairement à ce que suggère cette présentation un petit peu caricaturale, ne l'a pas découvert, mais il l'utilisait comme une sorte de principe opératoire pendant ses recherches. Ce qui est frappant chez Lavoisier, c'est qu'il en fait un usage très précis, très quantitatif, à l'aide d'une batterie d'instruments extrêmement chers pour l'époque, d'ailleurs, et extrêmement précis. Alors, il n'y a pas seulement les instruments traditionnels qui sont évoqués, là, le four la cornue, les alambics, les vaisseaux et les soufflets.
Oui, c'était un extrait d'une émission Les Bâtisseurs du Monde, hein, une émission un peu ancienne, mais justement un peu caricaturale sans doute, hein, mais qui quand même parle de ce talent d'expérimentateur, de Lavoisier, qui donne un sens concret, précis à ce principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en vérité.
Tout à fait, et c'est l'usage très précis et très quantitatif en fait de ce principe qui fait de lui en quelque sorte l'un des fondateur de la chimie au sens moderne. Si on le présente comme justement l'un de ceux qui fait basculer dans la chimie au sens moderne, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment on passe du qualitatif au quantitatif.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et notamment le corps de Lavoisier lui-même qui a été guillotiné pendant la Terreur, puisqu'on lui reprochait d'avoir été au service de l'Ancien Régime.
Oui, alors ça, malheureusement pour lui, si je peux dire, il a fait partie des fermiers généraux pendant l'Ancien Régime, ceux qui étaient responsables de la perception et surtout de la gestion de l'impôt. Et certains ne lui ont pas pardonné. Alors, il a été poursuivi pour soi-disant des intérêts perçus de façon abusive, des gratifications abusives. Mais bon, on sait bien que pendant la Terreur, dès que vous passiez devant le tribunal, vous risquiez la guillotine sans avoir fait grand-chose.
Alexis Rosenbaum, nous allons poursuivre ce voyage dans les petites citations de la science. Petite pause musicale avec même Wiman Felix Baumgartner.
Alright, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tap out of the strap. Start the cameras. Our running engine will take care
Autour de la question que racontent les petites phrases de la science, nous sommes avec le philosophe Alexis Rosenbaum pour son livre Eureka aux éditions Impromptu Le Pommier. Poursuivons ce voyage, cette fois au 19e siècle avec Pasteur.
Que se passe-t-il en haut ? Vous m'avez l'air d'un sérieux coq en pâte.
Je comprends pas, elle est vivante.
Votre don d'observation m'étonnera toujours.
Mais je l'ai inoculée. Elle devrait être morte.
Vous avez utilisé la bonne souche ?
Je crois.
Injectez à votre poule une souche très virulente.
Pourquoi ?
Pour vérifier que vous n'êtes pas tombé sur la poule la plus résistante du monde.
Le produit n'était pas altéré cette fois. J'en suis sûr. Elle devrait être morte. Je comprends pas.
Je sais. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher Roux.
Alexis Rosenbaum, Pasteur, qui dit « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Donc, il l'a vraiment prononcé, cette phrase ?
Oui, il l'a prononcée et même écrite. Là, elle est attestée, aucun doute.
Oui, alors qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Je pense que pour Pasteur, ça signifie que... La formation théorique, la préparation théorique est nécessaire au savant lorsqu'il tombe sur un hasard imprévu dans le cadre de ses observations ou de ses expérimentations. Et donc, si on veut tirer parti des hasards avantageux, il faut absolument qu'il y ait une certaine flexibilité théorique, un esprit préparé, ouvert, curieux et théoriquement averti.
Alors, justement, hein, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que Pasteur, lui, était préparé d'une certaine façon à ses découvertes scientifiques puisqu'il avait auparavant été artiste, ce qu'on sait peu. En fait, il était peintre également.
Oui, alors j'ai repris une hypothèse d'un professeur de l'Université du Colorado qui s'appelle Joseph Gall, qui explique que, effectivement, l'une des forces de Pasteur, au moins à certains moments de sa carrière, a été cette formation artistique, effectivement, et en particulier lorsqu'il a réussi à découvrir certaines symétries.
Les cristaux, hein, c'est ça. Oui, en fait, c'est un chimiste, hein, oui. Il a commencé ses travaux scientifiques en étudiant les cristaux. Il a découvert des symétrie étonnante qu'on ne connaissait pas justement à l'époque. Hein.
Oui, et sa capacité à pressentir l'importance des symétries est peut-être due, en tout cas d'après Joseph Gall, au fait qu'il pratiquait la lithographie quand il était jeune, et justement en lithographie, en général, ce qui se passe, c'est que l'artiste exécute d'abord son tracé sur une plaque de calcaire, et ensuite, grâce à une presse, le tracé s'imprime sur une feuille, mais le transfert du tracé inverse la figure, hein, ce qui fait que cette pratique de la lithographie aurait pu habituer Pasteur, préparer l'esprit de Pasteur à l'importance des symétries, aurait aiguisé sa sensibilité aux symétries.
Oui, puisque en fait, hein, le dessin final sur la feuille est l'inverse du dessin sur la pierre. Changeons de registre, hein, une phrase aussi très importante, hein, la nature a horreur du vide. Donc cette phrase, elle est amusante, puisqu'on l'emploie dans des contextes extrêmement différents. On peut l'employer en politique, en urbanisme, en marketing, pour dire que chaque fois qu'il y a une place vide, eh bien, on a tendance à l'occuper. Hein. Donc la nature a horreur du vide. Elle remonte à quand, cette citation, qui au départ est une citation scientifique ?
Alors, scientifique ou parascientifique, hein, dans la mesure où aujourd'hui, hein, la science n'a pas validé cette expression. Il est difficile de savoir exactement à quand la formule elle-même remonte, mais en tout cas, l'idée est déjà présente en substance chez Aristote, hein, puisque la physique aristotélicienne est une physique du plein, hein, qui refuse l'existence du vide. Pour Aristote, a différents arguments qui tiennent debout. Hein, et il a fallu attendre le XVIIe siècle, en fait, pour s'apercevoir que cette pseudo-horreur du vide était en fait une invention.
Oui, alors justement, à l'époque, on ne savait pas que l'essentiel de l'univers, finalement, est composé de vide, et la nature n'a donc pas horreur du vide, hein, comme le prétendait Aristote.
Ah oui, pour un physicien d'aujourd'hui, évidemment, un atome, par exemple, est constitué essentiellement de vide, puisque l'espace entre le noyau et les électrons est de l'espace qu'on peut qualifier, disons, à première approximation, de vide.
Oui, alors, à la radio, ben, on n'aime pas non plus spécialement le vide, en tout cas, le silence. Petite pause musicale avec les Malpolis qui interprètent les scientifiques.
Parmi vous, peut-être, y a-t-il quelqu'un qui saurait m'expliquer cette espèce de talon d'Achille dans la loi de la gravité, ce paradoxe, cette exception au principe de l'attraction, qui saurait me dire comment font les mouches pour chier au plafond? Cela remet-il Newton en cause, ou n'est-ce qu'une question de pression, d'inclinaison, d'angle de force qui m'en donnera l'explication? Malheureux les simples d'esprit auxquels on laisse croire des conneries. Aussi rendons ici tout de suite aux sciences l'hommage qu'elles méritent. Même si bien sûr les scientifiques nous affirment chaque jour encore qu'on ne change pas le plomb en or, non, mais à peu près tout en fric. Et quand experts et techniciens formels d'une seule voix assurent qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien, à tous les coups ça craint, c'est sûr. Mais tirons tout de même notre chapeau, saluons bien bas ces cerveaux, sans lesquels des tas de tarés, de charlatans et de curés nous laisseraient bien encore croire que la terre est plate comme une table, avec quatre pieds et un tiroir pour y ranger Dieu et le diable. Alors que la Terre est ronde, bien sûr, et du nord au sud, traversée par un axe sur lequel elle tourne, qui est fixé sur un joli pied, avec un petit interrupteur qui permet, et c'est bien pratique, si l'on a une prise électrique, de voir tous les pays en couleur. L'église l'a un coup de plus dans l'os quand un jour un petit mec déclare que nous ne sommes pas les gosses d'Adam et Ève, que c'est des barques, même si c'est dur à avaler, c'est du singe dont l'homme descend, même si à vous voir, bonnes gens, on se dit que l'inverse semble plus vrai. Enfin, pour conclure, et cette fois-ci, trêve un peu de plaisanterie, car si aujourd'hui on installe la science comme sur un piédestal, c'est bien qu'hier comme aujourd'hui, pragmatisme ou bondieuserie, ce qu'on aime surtout dans la vérité, c'est que ça évite de se fatiguer.
Vous écoutez Autour de la question, nous sommes avec le philosophe des sciences Alexis Rosenbaum et nous parlons de son livre Eureka, petite histoire des sciences en 40 citations. Alexis Rosenbaum, vous enseignez la philosophie des sciences dans des écoles d'ingénieurs. Est-ce que c'est important justement pour des futurs ingénieurs de s'intéresser à la philosophie des sciences ?
Eh bien, je crois que c'est une discipline qui leur permet de nuancer l'enthousiasme, parfois un peu naïf, qu'ils ont vis-à-vis de la science, de leur faire prendre un peu de distance critique vis-à-vis notamment d'équations qu'ils ont parfois reçues comme paroles d'évangile. Et donc, de ce point de vue-là, oui, ça les force à réfléchir à une pratique qui est finalement devenue assez constitutive de leur existence, mais sur laquelle, au fond, ils n'ont pas toujours vraiment réfléchi. Oui.
Oui, et c'est une discipline qu'on connaît assez peu, finalement, la philosophie des sciences. Qui pratique la philosophie des sciences ? Plutôt des philosophes qui s'intéressent à la science, plutôt des scientifiques qui s'intéressent à la philosophie ?
Les deux, je pense, à partir du moment où où elle permet de réfléchir, en fait, non seulement aux spécificités de la pensée scientifique, mais aussi au rapport entre la connaissance scientifique et la nature, aux relations entre les différentes disciplines scientifiques, à la méthodologie scientifique et à ses limites. À partir du moment où on accepte, disons, d'entrer dans le jeu de ces problématiques, on peut avoir à la fois des scientifiques qui se sont tournés vers la philosophie et des philosophes qui se sont tournés vers les sciences.
Alors donc, vous passer en revue 40 citations précisément, dont certaines sont très connues, par exemple celle-ci. « Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose retient d'être poison ». Donc on la doit à Paracelse, hein, un médecin donc, qui a vécu aux environs de 1500, qui est mort en 1541 précisément. Hein. Et alors, qui était Paracelse ?
Alors Paracelse, c'est un personnage un peu paradoxal, hein, parce que c'est un médecin errant à travers l'Europe, qui s'inspire de sorciers, qui multiplie des théories aux limites de l'alchimie et de l'astrologie, qui semble souscrire à des pratiques assez superstitieuses, et en même temps, c'est quelqu'un qui combat les aberrations de la médecine médiévale, quelqu'un qui essaye d'identifier les causes spécifiques des maladies, qui tente d'identifier aussi le principe actif des remèdes qu'il propose et donc qui, par certains côtés, préfigure la médecine chimique, si on peut dire, et même la toxicologie moderne.
Oui, alors son vrai nom, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Tephrastus Aureolus Bombastuc von Hohenheim. C'est cela, en fait, qu'il a résumé en un terme beaucoup plus court, Paracelse. Donc alors, on l'accusait, vous disiez hein, qu'il était un peu sorcier, d'employer des poisons dans ses remèdes. Et justement, alors lui, il s'est dit, mais alors, est-ce qu'il existe quelque chose qui ne contient pas de poison ? En fait, tout est plus ou moins poison. C'est quand même une révolution, ça aussi. Puisqu'auparavant, on pensait qu'il y avait des bonnes choses, des choses mauvaises. Mais lui, il dit, bah, ça dépend de la dose. Hein. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, des produits comme la noix de cannelle, par exemple, peuvent être donc toxiques à forte dose. Et aussi, par exemple, l'arsenic peut être bon à faible dose, mais mauvais à forte dose. Donc ça aussi, on utilise Paracelse, en fait, d'une certaine façon, même en médecine aujourd'hui.
Oui, ben vous m'avez proposé un café avant d'entrer dans le studio. La caféine, c'est pareil. Hein. Bon, alors, que je sache, elle est légale. Hein. Sa consommation est légale dans tous les pays, mais c'est une substance psychoactive. Si vous en prenez deux ou trois tasses par jour, eh bien, vous pourrez éviter les effets de somnolence ou activer votre attention. Mais si vous prenez 30 tasses par jour, eh bien, vous courrez de graves risques pour votre système cardiovasculaire et votre système nerveux. Donc, en fait, c'est quelque chose à quoi on est habitué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la façon dont Paracelse montre qu'il n'y a pas de poison en soi, si on peut dire, il n'y a pas de substance bonne ou mauvaise en soi, mais que cela dépend de la dose et de la capacité de réception du patient, cette façon déjà chimique d'envisager les substances tranche sur les considérations courantes à l'époque, en particulier le fait que la médecine médiévale était une médecine souvent des équilibres des humeurs, c'est-à-dire que il n'y avait pas vraiment de remède spécifique. On considérait que quand le corps s'était globalement asséché, il fallait l'humidifier, quand il était trop froid, il fallait le réchauffer, etc. Mais Paracelse, lui, essaye de voir ce qui, dans chaque substance, peut permettre d'agir sur la maladie spécifique qu'il a devant lui. Et pour cette raison-là, il considère qu'il faut avant tout déterminer l'effet de chaque substance sur le patient.
Et ce qui est intéressant, justement, c'est que parmi ces phrases, hein, ces petites phrases de la science, certaines sont restées dans l'histoire hein, et d'autres non. Et donc finalement, si elles restent d'une certaine façon, c'est parce qu'elles ont un sens philosophique beaucoup plus important que simplement le sens scientifique qu'elles contenaient. Elles vont bien au-delà. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça, finalement ?
C'est difficile à dire. Je pense que ça dépend des formules. Qu'est-ce qui vraiment les assure de postérité ? C'est pas facile. Je pense que si vous voulez, vous, Antonio, léguer une phrase impérissable à la postérité...
Oui, quel conseil me donnez-vous ?
Oui, à mon avis, il faudrait d'abord qu'elle puisse captiver l'esprit instantanément par une formule imagée ou énigmatique et ensuite qu'elle puisse être retenu par la mémoire. Je pense qu'il y a les deux. Alors, pour que la mémoire puisse l'entretenir, évidemment, le mieux, c'est qu'il y ait une certaine latitude d'interprétation, c'est-à-dire qu'on puisse l'accommoder à différentes sauces. Je pense notamment à la fameuse question du physicien Edward Lorenz. Hein. Le battement d'aile d'un papillon peut-il produire une tornade au Texas?
Oui, en voilà, fait, une citation aussi qui figure dans votre livre. Oui.
Alors en fait, dans un premier temps, il y a une image frappante, hein, l'espèce de décalage entre la fragilité du papillon et la puissance de la tornade, donc ça captive l'attention. Mais ensuite, l'idée de l'effet papillon, c'est quelque chose qu'on peut tous retrouver dans nos vies à chaque fois qu'une cause apparemment insignifiante peut produire indirectement de très grands effets. Et donc, le fait qu'on puisse la retrouver dans différentes situations, qu'on puisse l'accommoder à plusieurs sources, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, contribue à l'entretenir dans la mémoire et à la diffuser.
Comme la phrase dont nous parlions tout à l'heure, hein, la nature a horreur du vide aussi, on peut l'employer de différentes façons. Et d'ailleurs, ben, les hommes politiques aussi essaient de trouver, de calculer des petites phrases qui aussi frappent l'imaginaire et l'électorat notamment. Hein. Donc, c'est ce que font. Alors, les scientifiques ne cherchent pas forcément à le faire, finalement, puisque ce qui est amusant aussi, c'est que souvent, on leur prête des phrases qu'ils n'ont jamais prononcées. Par exemple, Eureka, c'est la légende, et pourtant, elle tourne pour Galilée aussi, c'est la légende. Donc, c'est assez étonnant, finalement. On ne prête qu'aux riches, d'une certaine façon.
Alors, en général, quand même, il faut reconnaître qu'elle concorde plus ou moins avec ce que le scientifique aurait pu penser. Dans le cas de Galilée, par exemple, elle n'est pas du tout aberrante, même si on n'a aucune preuve qu'il l'ait prononcée. Et alors, c'est vrai que dans le cas d'Archimède, on est trop loin pour pouvoir l'attester. Et le témoignage qu'on en a, c'est celui d'un architecte romain qui écrit 2 siècles après lui. Donc là, c'est plus douteux, c'est vrai.
Votre citation préférée, alors ? Parmi les 40 de votre livre.
Je les aime toutes, mais j'ai quand même une affection particulière pour celle de Richard Feynman. Personne ne comprend la mécanique quantique parce que c'est celle d'un grand physicien qui a été un extraordinaire vulgarisateur.
Oui, prix Nobel de physique en 1965.
Ouais. Hein. Oui, et qui a permis à des générations d'étudiants de mieux comprendre notamment la mécanique quantique, dont il était un des grands théoriciens, et qui pourtant déclare, en montrant pourquoi, déclare que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique au sens où personne ne peut s'en faire une représentation mentale cohérente.
Alors, il le pensait vraiment ou est-ce que c'était un peu aussi exagéré? Est-ce que vraiment personne ne peut comprendre la mécanique quantique? Est-ce qu'elle échappe vraiment à la compréhension humaine? Toutes les analogies seraient donc trompeuses d'une certaine façon.
Oui, alors bien sûr, tout dépend de ce qu'on entend par le verbe comprendre. Si par comprendre, on entend être capable de prévoir les phénomènes à l'aide d'équations, là, pas de problème. Si par contre, par comprendre, on entend être capable de se faire une représentation mentale vraiment cohérente, là, c'est plus difficile.
Voilà, bien écoutez, on va en rester là puisque l'émission touche à sa fin. Alors, pour nous avoir aidé à mieux comprendre et connaître ces petites phrases de la science, Alexis Rosenbaum, merci.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Eureka, petite histoire des sciences en 40 citations aux éditions Impromptu, Le Pommier.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard. En coulisses, demain, nous nous interrogerons sur l'origine du vivant. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et dans quelques instants, les infos sur la radio mondiale.